RTL Rencontre.
Voilà, aujourd'hui je rencontre Anselme. Bonjour Anselme. Ah, on t'entend pas, donc on va monter le micro. Voilà, faut que tu parles un petit peu plus proche du micro s'il te plaît. Voilà, attends. C'est le... Ouais, normalement ça devrait... Voilà,
non, c'est... Nickel. Voilà. Ah, je m'entends.
Voilà, tu t'entends en plus normalement, hein. C'est ça.
C'est ça.
J'arrange un petit peu tout ça. Voilà, qui est fait. Donc nous recevons Anselme. Bonjour Anselme.
On va bonjour.
Tu vas bien ?
Ça va, merci. Ouais.
Anselme, producteur des Bocaux d'Amour ?
C'est ça.
C'est ouais. Ça, c'est ton entreprise ?
Exactement, ouais.
Donc tu es venu aujourd'hui nous parler... à la fois de ton entreprise, on peut dire ça comme ça,
ta production, ma ferme,
ta ferme, et du déménagement du local paysan qui aura lieu, donc qui a lieu actuellement, c'est-à-dire vous êtes en train de faire
c'est
ce...
C'est en cours, voilà, c'est je viens cours. De passer, les portes sont ouvertes de l'ancien local, il y a un camion devant, il y a des collègues qui portent des caisses et des meubles et tout.
Ouais. Tout le monde bosse.
C'est ça.
C'est bien. Les Bocaux d'Amour, hein. Dis-nous tout, alors on va commencer... On va te laisser te présenter un petit peu, Anselme. Tu es arrivé dans la région il y a longtemps.
Comment ? Je ne suis pas Morvandio, moi ?
T'es Morvandio, on peut le dire. T'as pas tout à fait l'accent,
mais... Il y a un petit truc.
Il y a un petit truc, on peut y trouver.
Je suis bien d'origine allemande.
Ouais.
Et bien sûr, c'est l'amour d'abord d'une femme et puis du Morvan qui m'a amené ici. Donc, ma femme Nora, elle a des origines ici dans le Morvan. Son papa il était agriculteur. Tassigny, et du coup, nous on s'est installé en 2021 vraiment dans la région. On habitait déjà pendant 4 ans pas trop loin, et moi j'ai commencé en 2018 mon activité agricole d'abord avec les abeilles, l'apiculture, des produits transformés à base de miel, et puis avec les châtaignes qu'on ramassait ici dans le coin. Et ça commençait même avec Nora, ma compagne, on ramassait les châtaignes ensemble et on les transformait. Et puis j'ai commencé dès 2019 de livrer le local paysan ici à Luzy en tant que dépôt vendeur. Je n'étais pas impliqué dans l'organisation du local, je venais juste de temps en temps livrer mes produits. Et donc, voilà, donc ça, j'ai ces deux pieds de la ferme, l'apiculture et la castanéiculture, donc les châtaignes.
Ça, c'est dur à dire.
Ah, la castanéiculture, ouais, on n'a pas trop l'habitude ici. Et puis en 2024, j'ai créé, donc, on a commencé à planter en 2022, mais à partir de 2024, j'étais agriculteur à titre principal, ici installé donc, à La Roche-Millet, au pied du Mont Beuvray, dans la vallée de La Roche, dans le petit hameau du Ruau, avec 2 hectares. C'est petit, mais après, on a. Pas mal d'hectares avec des châtaigniers ailleurs, mais ce ne sont pas nos terres, c'est des lieux où on a juste le droit de récolte pour les châtaignes. C'est souvent des prairies avec des agriculteurs, avec des vaches, et du coup, ils enlèvent pendant la période de récolte, et ça va commencer là, tout de suite. Là, actuellement, il y a un collègue qui est achide sur des prairies en train de préparer pour la récolte, de poser des filets et de nettoyer en dessous des châtaigniers pour qu'on puisse récolter.
Et comment ça se passe, justement ? Ah ouais, ça m'intéresse, hein,
de oui, savoir un petit
peu. Ouais, ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des champs de châtaigniers, spécifiquement ?
Alors donc...
champs où il y a juste un ou deux... Il y a quelques châtaigniers par-ci, par-là.
On va retrousser un peu le chemin dans l'histoire de la châtaigne dans le Morvan, si tu veux, rapidement.
Ouais.
Et là, le châtaignier en tant qu'arbre a été apporté il y a à peu près 2000 ans par les Romains. Okay. On ne sait pas exactement si c'était pour le fruit ou pour le bois. On a vu qu'ils ont mangé des châtaignes. Est-ce qu'ils étaient greffés ? On ne sait pas. Mais on voit qu'il y a des traces de pollen de châtaigniers depuis à peu près l'âge romain. Et d'accord. Après, on sait qu'autour d'ici, surtout autour du Mont Beuvray, mais aussi un peu vers Mèvres, autour d'Autun et aussi un peu autour du Champ, c'est les 3 seuls endroits dans le Morvan où il y a vraiment une culture du châtaignier qui s'est établie pour le fruit. Donc, où le greffage s'est appris et s'est pratiqué. On sait que c'était à peu près au milieu du 19e siècle, ici, je ne sais pas trop vers Mèvres et Huchon quand ça a commencé, Mais ici, la légende dit que c'était des travailleurs italiens qui venaient ici construire, je ne sais pas, des fermes peut-être. Ouais. Et ils voyaient des toutes petites châtaignes minuscules que les morvandiaux s'amusaient à ramasser dans la forêt. Ils ont dit, bon, attendez, l'année prochaine, on vous ramène des greffons de nos grosses châtaignes italiennes. Et du coup, ils sont venus, la légende veut qu'ils les avaient... Ils avaient mis des greffons dans les patates pour les garder au frais. Et c'est comme ça que les variétés qu'on a ici, apparemment, ça vient d'Italie. Après, on ne connaît pas. Ça, c'est la légende. Ouais, bon, bref. Du coup, c'est qu'ici, dans tout le nord du Morvan, il n'y a pas de châtaigneraie, il n'y a pas de... Par contre, ici, autour du Mont Beuvray, carrément, quasiment chaque ferme avait une petite châtaigneraie, plutôt vivrière, pour leur nourriture, pour l'hiver, quoi. Et du coup, ces châtaigneraies, ils existent encore et il y a des personnes, une bonne partie sont encore d'exploiter, d'autres sont tombées en friche. Ouais. Et donc, il y en a parmi nous, donc j'ai dit nous, on est 7 agriculteurs, jeunes agriculteurs qui essaient de remonter un peu une filière châtaigne en soutien avec le parc du Morvan, Et on a créé maintenant un label qui s'appelle La Châtaigne du Morvan, un petit logo, voilà, et du coup... Et on essaie de créer tout un peu d'engouement autour de la châtaigne. Mais bien sûr, il y a aussi les anciens, je veux dire, qui exploitent depuis donc des générations ces vieux châtaigneraies qui existent déjà. Et donc, eux, ils sont regroupés dans une association basée à Saint-Léger et qui vendent à la foire au Maran, fin octobre, chaque année, leurs châtaignes. Mais eux, ils ne transforment pas trop. Du coup, voilà, il y a ces deux groupes, on va dire, de producteurs, transformateurs de châtaignes. Il y a les anciens qui ont les gros châtaigneraies et il y a les jeunes comme moi qui sont plutôt, soit ils ont sur la ferme qu'ils ont acheté, hérité des châtaigniers, ou alors ils vont récolter, cueillir ailleurs chez d'autres fermiers qui n'exploitent pas leurs châtaigniers. Dans mon cas, c'est plutôt des châtaigniers isolés, pour revenir enfin à ta question, c'est plutôt des châtaigniers isolés qui sont dans les prés. À un moment donné, ils faisaient peut-être partie des haies, mais avec le regroupement, les haies, ils ont disparu, les châtaigniers restent. Du coup, nous, on va récolter là-bas. Et donc, puisque toutes les bêtes à quatre pattes adorent les châtaignes en plus de nous, il faut se précipiter, d'être là au bon moment, et il faut enlever les vaches ou les moutons. Bon, on ne va pas aussi loin que de clôturer pour enlever pour garder pour les sangliers ou contre les sangliers, mais voilà. Donc, en tout cas, ça, c'est le cas donc, pour moi que je récolte dans des châtaigniers ailleurs. Et d'ailleurs, si quelqu'un écoute et qui a des châtaigniers et qui ne s'en sert pas, moi, je veux bien venir cueillir chez vous.
D'accord. Un châtaignier, ça te fait quoi comme récolte? Ça te permet... Est-ce qu'il t'en faut beaucoup de châtaigniers pour pouvoir produire? Parce qu'après, tu transformes.
Tout à fait.
On n'est pas venu encore. Tu transformes tu fais de la purée de châtaigne, on peut appeler ça comme ça ou
La crème de châtaigne.
La crème de châtaigne, excuse-moi.
Voilà, la purée aussi, ça sera sans sucre. Et après, la délice, c'est peu sucré. Et la crème de châtaigne, c'est un produit très sucré que je ne ferai pas.
Et un arbre produit, la production d'un arbre,
ça peut être entre 20, 30 jusqu'à 100 kilos. Voire plus. Donc, il y a quelques arbres isolés qui sont énormes, qui ont toute la lumière parce qu'il n'y a pas de concurrence, personne à côté. Donc, ils peuvent produire plus de 100 kilos par arbre. Mais quand ils sont en châtaigneraie, ça va plutôt autour de 30 à 50 kilos par arbre.
Ouais. Et un châtaignier, ça met combien de temps pour produire
Met longtemps. Du coup, on les plante et on les greffe, ça prend à peu près 10-15 ans pour être en vraie production. Tu peux avoir les premières châtaignes à partir de 5-6 ans. Là, par exemple, j'ai des châtaigniers que j'ai plantés en 2022. Là, aujourd'hui, ils ont 3 châtaignes sur l'arbre. Voilà. Non, ça ne va me faire même pas un pot. Et du coup, après, ils vont produire pendant des centaines d'années. Les châtaigniers sur lesquels moi, je récolte, c'est ces châtaigniers-là qui ont été greffés par les Italiens ou par les Morvandiaux qui ont appris des Italiens dans le 19e siècle et donc qui ont 150 ans facilement.
Ah oui, quand même.
Et c'est des anciens, quoi. Ils sont majestueux et inspirants.
Ah oui, c'est impressionnant toujours. Ça fait plaisir d'entendre justement ces arbres, cette production là. Enfin voilà, et le fait que toi tu fais la transformation avec ces châtaignes, tu fais la transformation, donc tu fais l'apiculture aussi.
C'est ça. Donc
tout ça, ça te donne un peu de cette crème de châtaigne. Comment tu fais cette crème? Parce que moi j'ai goûté, c'est une tuerie, quoi. Merci. Quand on commence, on ne s'arrête plus.
C'est le but un peu. Du coup, On fait plusieurs choses avec la châtaigne. On vend en brut des châtaignes comme ça. On fait en sorte de pouvoir en garder jusque Noël. C'est tout un processus. Il faut les tremper dans l'eau, les ressuyer, les stocker au frais. Comme ça, jusque Noël, les gens peuvent acheter des châtaignes fraîches au local paysan, notamment. Ouais. Et après, on va en transformer en délices et aussi on transforme en châtaignes épluchées en bocal.
Oui.
Ça, c'est comme des petits bonbons, elles sont cuites, elles sont épluchées, on peut tout de suite les ajouter à une sauce en dernière minute ou à une soupe ou quelque chose. Mais notre produit principal, c'est le délice de châtaigne. Donc, on ne l'appelle pas crème de châtaigne parce que c'est moins sucré, on n'a pas le droit de l'appeler crème parce qu'il faut un taux de sucre qui, pour moi, est trop élevé, qui rend pour moi le produit un peu écœurant.
Ouais.
Après, c'est chacun ses goûts.
Ouais.
Et du coup, on appelle ça délice de châtaigne. Et moi, je la décline en trois sortes. On a la nature, vanille et rhum raisin. Là, il y a la petite histoire. Il y avait des pirates des Caraïbes qui sont montés la Loire jusque la Roue avec leur rhum et leur raisin. Et on a fait une petite tambouille ensemble. Et ça fait rhum raisin. Et c'est très, très bon. Châtaigne, rhum raisin. On n'imagine pas, mais il faut le goûter.
Oh, c'est merci les pirates.
C'est ça.
Ok, tu fais pas que ça, tu fais pas que le délice de châtaigne.
Voilà, ça c'est des produits à base de châtaigne et ouais. On mélange pas avec le miel parce que la châtaigne en fait c'est un peu une prima donna hein, quand elle est sur scène, elle aime bien être toute seule.
Alors, ah ouais.
On dose très très tranquillement le rhum et raisin pour garder encore la place, mais dès qu'il y a quelqu'un, un grand Pavarotti qui se met sur scène à côté de cette prima donna, elle va juste disparaître.
Quand c'est nature, il n'y a que de la châtaigne.
Bah c'est châtaigne sucrée eau, voilà, c'est sucré.
D'accord.
Et du coup, pourquoi je disais ça? Parce que voilà, si on ajoute du miel, on peut perdre le goût de la châtaigne. Donc on peut faire plein de choses avec la châtaigne. Hein. J'ai vu plein de déclinaisons. Et...
Oui, mais alors, excuse-moi, pourquoi tu fais l'apiculture? Puisque tu n'es pas producteur de miel.
Non, c'est mes abeilles.
Oui, mais avant, parce que moi, dans tes bocaux...
Je vends des pâtes à tartiner à base de miel. Donc j'ai des miels aussi au local paysan.
Voilà, c'est les pâtes à tartiner qui montrent.
Et c'est les fameux noisy-miel, amandiel et chocomiel, trois pâtes à tartiner qui sont peut-être encore plus dangereux comme produits que les délices de châtaigne. Voilà, personne n'est encore allé à l'hôpital, mais on a des gens en cure d'addiction. Voilà.
C'est ça. Moi, c'est toute cette transformation du miel qui m'a...
Voilà, moi, je vends aussi du miel brut, mais la plupart part dans les pâtes à tartiner. C'est très, très apprécié. Et après, donc, le troisième pied de la ferme, dont je n'ai pas encore parlé, c'est la production de fruits et de petits fruits.
Mmh.
Et c'est assez nouveau. Donc, on a planté des vergers à partir de 2022. On plante tous les ans. Et là, une fois la récolte cette année, une fois la récolte de châtaigne va être terminée, on va se remettre à planter pour agrandir encore le verger. Et on a un verger atypique, avec des petits fruits et des fruitiers qui poussent ensemble sur la même parcelle, dans les mêmes lignes. C'est une forme d'agroforesterie qu'on appelle la syntropie. Et du coup, on plante et des fruitiers et des petits fruits ensemble, même différentes variétés et sortes de fruitiers, pareil pour les petits fruits. Et entre tout ça, on va aussi avoir des saules et des peupliers, des sureaux, d'autres arbres, arbustes, voire aromatiques, qu'on plante pour la production de biomasse. En fait, c'est comme de l'engrais qui est planté sur place. Plutôt que de chercher de l'engrais ailleurs et de l'amener, on plante des plantes, on appelle ça des plantes nourrices, ou des plantes soutien, qui sont là autour de fruitiers, et on fait en sorte qu'ils ne prennent jamais trop de lumière, qu'ils ne grossissent pas trop, en les taillant régulièrement. Et cette taille, c'est la matière qu'on pose par terre qui va décomposer, qui va nourrir le sol, et par au-dessus et par en dessous, quand les arbres sont taillés, ils lâchent une partie de leurs racines, et ça aussi, ça nourrit le sol.
Wow.
Et du coup, ça, c'est tout un système qu'on expérimente là depuis quelques années, et ça commence à porter ses fruits. On a récolté presque une demi-tonne de petits fruits l'année dernière, cette année, pardon, et du coup...
Qu'est-ce que tu appelles petits fruits?
Donc nous, on a fraises, framboises et cassis pour l'instant. D'accord. Et après, on aura quelques autres trucs, des myrtilles et des baies du chalef d'automne, pas très connues.
C'est un aménagement bien spécial sur ton champ pour ces petits fruits, puis au milieu des arbres, puis les petits fruits.
Oui, c'est tout un design où on prend en compte les besoins de lumière de chaque plante, de chaque individu ou chaque variété, et on les organise dans l'espace en sorte que chacun a les meilleures conditions pour elle ou pour lui, pour grandir.
D'accord. Mais par exemple, les fraises, au bout d'un certain temps, normalement, ça, il faut bouger tout ça. Parce que bon, je sais que les fraises, ça se repique, hein, bien sûr. On peut en avoir au même endroit pendant quelques années, il me semble. Hein.
Bah, en fait, si tu veux, on a les gros fruitiers dans le verger. Ils sont espacés de 4 fois 6 mètres, à peu près, comme dans un verger classique.
Ouais.
Mais plutôt que d'attendre 10 ans d'avoir des fruits et ne rien récolter pendant ce temps-là et m'occuper du verger sans avoir de récolte pendant 10 ans, bah, je mets entre les lignes de fruitiers, je mets une ligne de framboises, donc à 3 mètres entre deux lignes de fruitiers. Et donc, je peux produire des framboises pendant 10 à 15 ans avant que les fruitiers se referment au-dessus de cette ligne de framboises. Et donc, au bout de 15 ans, bah, je vais raser cette ligne, mais j'aurai eu 15 ans de framboises, ou peut-être 12 parce qu'il faut quelques années qu'ils s'établissent. Et jusqu'à ce que la haie de framboises soit trop épaisse, il y a 3 ans pour produire des fraises au pied des framboises. Donc, j'ai des fraises de chaque côté des framboises qui produisent juste le temps que la plante peut bien produire. Au bout de 3 ans, elle ne va plus avoir une grosse pollution et il ne va plus y avoir assez de lumière. Et donc, elle va juste être en couvre-sol et c'est très bien. Ah, et après, pareil, entre les fruitiers, dans la ligne des fruitiers, on va planter des cassis qui, pareil, peuvent produire pendant 10 à 15 ans avant qu'il n'y ait plus assez de lumière pour elles.
C'est super ingénieux, je trouve.
C'est tout ça, tout un système.
Ah ouais, non, mais c'est bien, parce qu'en plus, c'est vrai que la fraise, de toute façon, au bout d'un moment, ça s'atténue, les framboises, c'est pareil.
Et donc, ça veut dire que ce genre de verger, il produit différentes choses au fur et à mesure de sa vie.
Ouais.
On ne va pas tout le temps avoir les mêmes produits. Il faut adapter un peu les produits qu'on fait avec à ça.
Mais ça veut dire, dans 3 ans, quand même, tes fraises, il faut les faire ailleurs, alors.
C'est ça. Je plante des nouvelles lignes tous les ans. Comme ça, j'aurai quand même de la fraise encore un bout de temps.
Non, parce que j'ai goûté aussi ta confiture de fraises. C'est vrai que tu fais que les desserts, en fait.
Je suis un gourmand et donc j'assume. Et on fait pour l'instant presque que des trucs sucrés. Et voilà. Après, avec les châtaignes, évidemment, il y a moyen, surtout les châtaignes au naturel, qui sont juste épluchées en bocal. On peut les ajouter à des plats salés. Mais j'ai des collègues qui déclinent la châtaigne aussi en salé, dans des bocaux salés. Et il y en a au local paysan aussi. Mais moi, je ne fais pas pour l'instant.
Voilà. La transformation, c'est quand même un travail supplémentaire. Parce que si on s'en tient juste à la production, on ramasse nos fruits, nos légumes, on va les vendre. Mais ensuite, le fait de faire de la transformation, c'est quand même... comment dire? C'est une préparation... soi-même, déjà une formation peut-être aussi différente.
Oui, je suis allé moi en Lozère me former à la transformation de la châtaigne.
Oui.
Il y a un centre là-bas. Et oui, en fait, tous les agriculteurs qui s'orientent vers la transformation et la vente directe, c'est tout d'autres métiers à apprendre. Et il faut vraiment être... ça regroupe plein de métiers. Il faut déjà savoir cultiver et après transformer et après vendre, faire la compta. En fait, on a un agriculteur en vente directe. Il faut pas mal de compétences pour pouvoir le faire. Ouais. Donc, la transformation, pour nous, c'est... Et pardon, je fais semblant de me le taper. Ou comment on dit en français ?
De me la rajouter.
Ouais. En fait, moi, je n'ai pas toutes les compétences. Donc, heureusement, on est en équipe, on est plusieurs.
Vous êtes plusieurs dans ton entreprise à travailler ensemble?
C'est ça, j'ai un salarié, une stagiaire et toujours une ou deux woofers en plus.
Voilà, qui viennent t'aider, d'accord. Et bon, une fois que la transformation, donc tu as été formé, tout ça pour faire la transformation, la vente, comment ça se passe?
Donc, la vente, du coup, nous on vend dans une trentaine de magasins entre Dijon et Nevers.
Ouais.
Et on essaie d'agrandir encore cette zone de commercialisation. Et en plus de ça, on vend sur des marchés. On fait pas de marché hebdomadaire parce que nos produits ne sont pas exactement des produits essentiels qu'on va acheter toutes les semaines. Le miel, les pâtes à tartiner, la crème châtaigne, la délice de châtaigne. Et du coup, on vend plutôt en magasin, mais on fait des marchés plus spéciaux, des marchés d'été et on fait beaucoup de marchés de Noël. Parce que du coup, là, la châtaigne, on associe ça avec Noël et on fait aussi du vin chaud bio et on fait des crêpes pour mettre notre crème de châtaigne dessus. Et tout ça. Pardon, j'arrête pas de dire crème parce qu'on a changé le nom encore récemment. C'est délice, en fait.
C'est délicieux. Et juste pour terminer, par rapport à la vente, donc tu vends, tu disais, dans le Morvan, tu vends dans la Nièvre, tu vas à Dijon, en Saône-et-Loire, tout ça, Côte d'Or, un peu partout. Donc tu t'étends un petit peu. Est-ce que tu penses t'étendre.
Tokyo, New York, oui. Non,
pas aller pour l'instant. Mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est un produit du Morvan, donc c'est, il y a entre guillemets un label quand même, puisque
Là on l'a créé.
Voilà, vous l'avez créé avec les châtaignes, donc c'est quand même important. Ouais. Mais est-ce que tu penses que ça peut
C'est un peu l'objectif de ce La Châtaigne du Morvan, de ce label qu'on a créé, et d'ailleurs ça va être lancé ce week-end à la fête de l'automne et des associations au parc à Saint-Brisson. Donc ce samedi 4 et 5, samedi dimanche 4 et 5 octobre, il y aura une grande fête à laquelle va avoir lieu le lancement officiel de ce nouveau label La Châtaigne du Morvan, qui peut être donc utilisé par des producteurs qui adhèrent à une certaine charte qu'on a écrite ensemble, les 7 producteurs plus le parc. Et après, ça peut aussi être utilisé, et donc là, pour répondre à tes questions, par des personnes qui souhaitent utiliser La Châtaigne du Morvan, des pâtissiers, des transformateurs divers et variés, qui veulent, ou des restaurateurs qui veulent mettre sur leur menu un produit avec La Châtaigne du Morvan. Ils peuvent du coup aussi mettre ce petit logo La Châtaigne du Morvan qui est tout beau. Et donc, c'est aussi dans l'idée de faire connaître plus la châtaigne, de faire parler de ça, La Châtaigne du Morvan, et qu'on puisse aussi accéder à d'autres marchés, tout à fait. Ouais. Et pour la commercialisation, moi j'ai un projet avec Yves de la vinaigrerie de Poil Folle, je ne sais pas s'il est déjà passé.
Il passe mercredi, je crois.
Mercredi, super. Ouais. Et aussi avec Benjamin qui fait les biscuits au sarrasin, là, qu'on vend aussi les biscuits qui sont une vraie tuerie, là, les nouveaux. Et le gros au cœur dur, au cœur doux, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Les gros durs au cœur doux, non?
Ah oui.
Bon, bref, en tout cas, avec Benjamin et Yves, on crée ensemble un petit projet de livraison commune. Ouais. Pour aussi à nous permettre à étendre nos réseaux. Donc déjà dans cette zone entre Dijon et Lyon, on est entre Dijon et Nevers, on est dans pas mal de magasins communes, mais il y en a aussi qui ont des magasins que les autres n'ont pas, etc. Donc on va se partager une partie des livraisons et du coup accéder à des nouveaux magasins et pourquoi pas avec ça aussi aller plus loin, pousser un peu les
zones. Bien sûr, il faut.
Ouais, c'est ça. Mais après, il faut suivre avec la production, c'est ça.
Oui, bien sûr, c'est du travail, mais c'est aussi une manière de faire, rayonner notre région partout dans la France et dans le monde, bien sûr, c'est important. Mais avant d'aller si loin, bien sûr, revenons
à
l'USI, au local paysan. Voilà, au local paysan. Tu y es depuis combien de temps?
Donc j'ai commencé à livrer en 2019 et je suis actif dans la co-gestion. On est une sorte de gestion collégiale avec 9 co-gérantes. Ben là, on doit ajouter 2 personnes en plus, on va mettre 11. Et ça fait depuis 2023, je pense, que je suis actif dans la co-gestion.
La co-gestion, d'accord.
C'est ça. Et du coup, déjà, quand je suis arrivé, ils parlaient du déménagement à Courgambetta et c'était censé se faire dans quelques mois. Et du coup, les quelques mois, ils ont duré 2-3 ans, 2 ans. Mais voilà. Donc là, on y est et on est très, très contents. Et on a beaucoup de gratitude pour la mairie et pour le Nièvre Aménagement qui nous ont permis d'avoir accès à ce super local qui a été racheté par Nièvre Aménagement et qui a été rénové par eux en bonne partie pour nous, quoi, avec le local en tête. Et du coup, on a aussi un soutien de la mairie pour la première année, pour pouvoir s'en sortir parce que du coup, là, on triple presque de surface. Ouais. On ajoute beaucoup de nouveaux producteurs. Le loyer augmente et tout, et les charges aussi. Et donc, il faut qu'on puisse suivre. Et donc, on espère qu'on ajoute beaucoup de nouveaux clients et pas que des nouveaux producteurs aussi à notre clientèle et que les paniers s'augmentent parce qu'il y aura plus de produits et voilà.
Toi, au niveau de la gestion, tu t'occupes de quoi exactement?
Moi, je suis un peu dans la facilitation des réunions et je fais tous les comptes rendus de nos réunions.
Ouais.
Et après, je m'occupe de la relation avec la mairie et après, on fait ce qu'on peut à droite et à gauche quand il y a besoin.
Okay.
Voilà, et moi, j'occupe aussi, par exemple, de l'achat de matériel. Je me suis un peu mis dans les ventes aux enchères récemment. Et quand on a besoin de choses pour le local paysan, je trouve. Et là, mercredi, je vais partir avec Yves. Donc, d'ailleurs, il va venir mardi, Yves.
Peut-être
parce que je vais partir avec lui mercredi à Chaland récupérer des desserts et des étagères et des choses dont on a encore besoin pour le nouveau local.
D'accord. Et une autre question par rapport au local. Toi, il va ouvrir tous les jours, voilà, tous les matins.
Ça, c'est un très bon point.
C'est du coup, un point important. Et...
C'est ça. Donc, jusqu'ici, on était ouvert 3 jours par semaine, mercredi, vendredi, samedi.
Ouais.
Et d'ailleurs, du coup, comme on disait au tout début, là, on est en train d'éménager. Donc, ce mercredi, le 1er octobre, on sera fermé.
Ouais.
Pour nous permettre de terminer le déménagement. Donc finalement, on ne ferme qu'un seul jour parce que du coup, ce vendredi 3, on va ouvrir le 3 octobre. Et après, on va avoir des nouveaux jours d'ouverture. On va être ouvert du mardi jusqu'au samedi tous les matins.
Ça, c'est bien.
Et on garde le mercredi et le vendredi après-midi.
D'accord. Voilà. Et dans ce cas-là, comme vous êtes ouvert tous les matins, vous faites un roulement entre producteurs, c'est ça ?
C'est ça. Donc on sera toujours un ou deux producteurs présents. Au local, c'est ça. Et donc, heureusement, on a des nouveaux producteurs qui sont aussi prêts à faire des permanences ou des anciens qui livraient déjà, qui vont maintenant rejoindre l'équipe des permanenciers pour qu'on puisse, parce qu'on ajoute du coup 2 permanences en plus, les 2 matins qu'on ne faisait pas pour l'instant, mardi et jeudi.
Oui.
Et en plus, on va doubler
pour être
deux les mercredis et les vendredis matins quand il y a le plus grande affluence.
Ouais.
C'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut 4 créneaux de plus par semaine. Et donc voilà, on s'est organisé et on est très heureux d'accueillir du coup Marianne qui va faire les permanences avec nous et Emmanuel et Marion et Mathieu.
D'accord.
Déjà, voilà.
Bon, bah, très bien. Pour ça, nous serons nous présents vendredi
Magnifique.
Matin pour l'ouverture avec, je pense, Céline qui sera avec son micro
Super.
Directement sur place et on fera un petit direct un petit peu pour avoir le
Super.
Ressenti et puis voir ces nouveaux produits, peut-être goûter.
C'est dommage qu'on ne peut pas faire goûter à la radio, mais ouais, Céline va pouvoir décrire ce qu'elle
dit. Bah, non, mais c'est pour ça qu'on se bat d'ailleurs. J'aimerais bien, c'est moi qui m'occupe de la technique, je suis très déçue. J'aimerais bien y être directement ce jour-là pour pouvoir goûter.
Bon, t'es pas lent, on va t'apporter des trucs.
Ah yes, super. Voilà, donc, et on se retrouve donc tous ensemble vendredi. Merci beaucoup Anselme
Merci,
pour toutes ces informations.
Avec grand plaisir.
Anselme, producteur des bocaux d'amour. Hein, des bocaux, des délices d'amour, moi je dirais. Vraiment, c'est délicieux. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion d'y goûter, franchement, c'est super bon, quel qu'il soit.
Hein,
et puis, il fait ça effectivement avec amour. Et merci pour toutes ces informations sur le local paysan. Nous y
c'est
serons
top.
Vendredi, donc il est fermé jusqu'à vendredi matin. Nouveau lieu, cours Gambetta, pour ce nouveau local paysan. À très bientôt, reviens quand tu veux, avec
merci.
Grand plaisir.
Merci.
Et puis avec des bocaux aussi,
yes.
plaisant.
FDL.